Bonsoir. Référendum constitutionnel, la CEI promet encore pour demain d'autres résultats toujours partiels. La première tendance donnée hier par Abbé Apollinaire Malumalu présente une avance de 78,47% en faveur de oui, 21,03% de non. Le suffrage exprimé dans au moins 33,3% de bureaux dépouillés a fixé partiellement l'opinion sur ce premier scrutin qui ouvre une série d'élections organisées démocratiquement en RDC après 40 ans. Le résultat complet de la CEI est prévu pour la semaine prochaine. Quelle analyse faire déjà des résultats partiels publiés depuis hier? Spéciale tribune de presse dans ce dialogue entre Congolais reçoit dans ce studio de Radio Okapi John Gomboa, journaliste à Antenne A, une chaîne télévisuelle à Kinshasa, Mike Mukebai, directeur de publication de Africa News, une publication qui a pris pareil ici à Kinshasa. Au téléphone, nous aurons Jean-Jacques Luboya, éditeur du journal La Vérité, qui interviendra depuis Lubumbashi, Bélar Mboui, rédacteur en chef de Soft International.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Quelle analyse faire de résultats partiels publiés depuis hier par la CEI? C'est le sujet central de cette spéciale tribune de presse. 78,47%, je vous le disais, de oui, 21,03% de non. Le résultat partiel de la CEI a donné une tendance claire du résultat de référendum. Qu'est-ce que ce résultat peut permettre déjà de dire, de faire de commentaires, à analyser. Commençons cette tribune par Mike Mukebai. Je rappelle que vous êtes éditeur,
directeur de publication
de Africa News.
Sur ces chiffres, c'est depuis qu'on a commencé la publication de ces chiffres que j'ai la même position. Ces chiffres ne m'inspirent pas beaucoup de commentaires parce que la victoire du oui était connue dès le départ. Tout a été fait pour que le oui passe, c'est clair. Vous remarquerez, nous avons eu un débat très bien avec des confrères, vous remarquerez que même sur le choix, par exemple, des couleurs du oui et du non, la couleur du non, c'est une couleur triste, sombre, et la couleur du oui, c'est une couleur suggestive, flamboyante. Qui pise, c'est la couleur de la commission électorale indépendante elle-même. C'est la couleur orange. Le parti pris est clair. Il y a eu un référendum qui a été organisé. On n'a pas permis à ce que les Congolais soient informés sur l'acte qu'ils allaient poser. Le projet de constitution n'a été vulgarisé qu'à partir du 11. Et encore que là-dessus, il y a eu une controverse. Parce qu'on a parlé de plusieurs projets en circulation, au point que Malumalu a dû faire une intervention pour dire que le seul projet à prendre en considération, c'est celui de sa commission. Donc, je ne trouve pas de commentaires à faire à proprement parler sur le résultat de ce référendum, parce qu'il était connu d'avance. Vous aurez remarqué toute la pression qui a été exercée. J'ai même remarqué qu'au niveau du CIAT, on a publié un communiqué pour dire que c'était des premières élections organisées en République démocratique du Congo, ce qui est très grave parce que là, on falsifie l'histoire de tout un peuple, c'est dangereux.
Premières élections après 40 ans, c'est...
Non, dans le communiqué, je n'ai pas lu après 40 ans. J'ai lu ce communiqué, il n'a pas été question des élections libres après 40 ans. Il a été question des premières élections. J'ai suivi même des reportages qui ont été faits dans ce sens-là. Alors je me dis, dans un tel contexte, on n'a pas permis aux Congolais de s'exprimer réellement. Quel commentaire je peux faire? Je constate qu'il y a un référendum qui a été imposé à la République démocratique du Congo par la volonté de la communauté internationale, ce qui est tout de même une bonne chose parce que ça nous permet d'avancer dans une certaine mesure, mais pourvu qu'on tienne compte que des frustrations ont été occasionnées et que si on pense continuer sans tenir de ces frustrations, nous allons être rattrapés un jour.
Mike Mukebai, par votre intervention, vous posez là le problème de la crédibilité des opérations.
Je ne suis même plus à ces stades-là parce que lorsque la communauté internationale décide que c'est déjà ça, vous savez comment les choses...
Donc vous voulez dire que c'est la communauté internationale qui a imposé le oui, c'est ça?
Non, pas qu'il a imposé le oui au départ, hein. Je ne dis pas ça. Mais les conditions ont été telles qu'il fallait que ce référendum réussisse. Vous avez vu des personnalités de haut rang, européennes, belges, françaises, défiler ici pour venir battre campagne en faveur du oui. Je ne sais pas si nous avons eu l'occasion d'aller, s'il y a eu des Congolais qui ont eu l'occasion, des ministres congolais qui ont eu l'occasion d'aller battre campagne pour le oui ou le non lors du référendum constitutionnel sur l'Europe. C'est quand même très grave ça. On a préparé la victoire du oui, on a appuyé la victoire du oui. Alors je ne parle plus de crédibilité, parce que nous le savons, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Et de toutes les façons, chaque fois qu'on évoque ces irrégularités, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'elles sont des natures à entacher les résultats globaux? Alors j'ai dit, il n'y a plus de débat sur la crédibilité. Parce que la volonté de la communauté internationale a fait que ce référendum passe, que le oui passe. La question aujourd'hui, à mon point de vue, c'est de réfléchir sur l'enjeu de ce référendum qui, à mon point de vue, a été organisé pour régler la crise de légitimité et de se demander si cette crise de légitimité a été réglée. J'ouvre une parenthèse.
On va revenir à vous, Mike, pour plus de détails dans votre point de vue. On connaît maintenant votre point de vue. On va maintenant retrouver Jean-Jacques Louboya, qui est éditeur de journal La Vérité. Il intervient depuis Lubumbashi. Jean-Jacques, quelle est votre interprétation déjà sur le premier résultat partiel de la CEI en faveur de oui, effectivement?
Un petit recul en arrière, je vous dirais que la campagne référendaire n'a pas été positive. À la veille du vote, et même le jour J, beaucoup de Congolais ne connaissaient pas les contenus de leur projet de constitution. Aujourd'hui, le oui l'a emporté, mais la situation n'a pas changé. On a embarqué des gens dans un train sans qu'ils puissent connaître la destination finale. Les vins étant tirés, il faut les boire. Ce vote référendaire est un véritable cliché de la scène politique congolaise telle qu'elle se présente depuis l'accouchement des accords de Pretoria. Tous les belligérants qui ont accédé au pouvoir ont milité activement pour le oui. Agir autrement aurait été pour eux un suicide collectif du fait que la communauté internationale ne peut pas leur accorder une autre feuille de route au-delà du 30 juin prochain. L'offensive du président de la République dans certaines zones de l'Est, jadis occupées par les RCD et ses alliés, a été déterminante dans les choix des votants. Jusqu'à preuve du contraire, la tendance au oui se réserve comme un véritable raz-de-marée. Dans les centres urbains où résident les contestataires, je dis bien, dans les centres urbains où résident les contestataires, les non et l'abstention émergent. C'est le cas de Kinshasa, une ville que l'ancien président de ce pays, c'est Mobutu, considérait comme la capitale des braillards. Que ce soit à l'époque coloniale, que ce soit sous le régime Mobutu et même sous le régime des Kabila Père, l'opposition avait toujours pignon sur à Kinshasa. Et pour ce qui est de Mbujima, la capitale du Kasaï oriental, la tendance au non et l'abstention ont été renforcées par le message de Tshisekedi, le patron de l'UDPS. Pour la petite histoire franquin, pour les reines finissantes de Mobutu, les Mbujimaïens avaient refusé d'utiliser certaines coutures de la Banque centrale dans les transactions concourantes. Le même cliché ressurgit aujourd'hui par le droit du vote référendaire sous une autre forme. En Mbujimaï, on conteste beaucoup. Je ne cesse de comparer la ville de Mbujimaï à l'Académie, où chaque fois, on préfère dire niette au gouvernement d'Alger.
Ok,
pour le moment, il pleut beaucoup sur le Lubumbashi. Aujourd'hui, nous pouvons dire que chaque province de ce pays a ses réalités. Personne ne pourra y changer. À mon sens, le oui est déjà passé. Il faut faire avec. Après, la Maison-Blanche, Bruxelles et même Paris ont félicité ceux qui travaillent pour l'aboutissement du processus dans lequel nous sommes tous engagés.
On va revenir à vous, Jean-Jacques Louboya. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Vérité. Vous intervenez là depuis Lubumbashi. Allons maintenant à Goma où intervient Bélard Mbouy, rédacteur de Soft International. Bélard, quelle interprétation vous faites de résultats donnés par la CEI hier, résultats en faveur de oui?
Bien, j'aimerais dire d'abord deux choses, Franklin. La première, c'est qu'il est clair que la victoire du oui est nette. Plus de 78%, même s'il s'agit d'une tendance partielle, il semble que les gestes sont bien faits. La deuxième chose, j'aimerais dire qu'il ne faut pas pour autant pavoiser parce que Nous savons bien dans quelles conditions ce scrutin a été organisé. Vous savez, pour compléter un peu ce que Mike Nkebaï disait tout à l'heure, lorsque j'entends les gens, les observateurs européens crier victoire, dire leur satisfaction de ce que l'élection s'est bien passée, moi je suis tout à fait... Parce qu'une élection, il ne faut pas seulement la voir en amont, il faut voir aussi en aval, voir comment tout cela a été organisé, l'équité dans la distribution du temps d'antenne, par exemple, pour faire la propagande. Et c'est là qu'il y a une vraie inquiétude, Franklin. Vous vous rendez compte que on a fait la campagne du oui dans une scénographie admirablement réglée à l'avance. Vous comprenez que nous avons vraiment été à la limite du fascisme parce que les gens du non n'ont pas su s'exprimer. Alors, si pratiquement sans concurrent, le oui trouve quand même plus de 20% des Congolais qui sont opposés, qui disent non ouvertement, il y a vraiment une réelle inquiétude à ce niveau-là. Donc, le oui, en plus, il faut dire que dans la plupart des provinces, on a projeté de l'ignorance de la population pour extorquer pratiquement ce oui-là. Alors, dans les provinces de l'Est où je me trouve actuellement, qu'est-ce qu'on a raconté aux gens? On a dit aux gens, vous savez, si vous ne votez pas oui, la guerre va reprendre, Jean-Pierre va repartir en Équateur, Adela Toubero va revenir à Goma, Kabila va rester à Kinshasa et la guerre va se relancer. Alors, avec de tels arguments, les gens ne pouvaient que aller dire oui. Vous vous rendez compte? Surtout qu'il n'y avait pas en face les gens qui pouvaient aussi dire, de donner l'autre, comment dire, l'autre son de cloche. Même à Kinshasa, même j'ai vu la télévision publique battre campagne de façon tout à fait scandalisante pour le oui, avec de clips montrant que si on ne vote pas oui, c'est le chaos total. On n'a pas pu faire pour le passant du non non plus. Donc il y a toute cette escroquerie qui a fait que finalement le oui l'emporte, mais que le non atteint déjà plus de 20% alors qu'il n'a pratiquement pas eu de grands défenseurs. Vous savez, l'UDP a demandé pour le boycott Franklin. Le non n'a pas eu vraiment de poids lourd pour le défendre, mais il fait plus de 20%, il y a un vrai problème là-dessus.
On va revenir à vous, Bélard Mboui. Je rappelle que vous interveniez depuis Goma et vous êtes rédacteur en chef de Soft International. Retrouvons maintenant John Gomboa, journaliste à Antenne A. John, quelle interprétation vous faites déjà de premiers résultats de la CEI, résultat partiel qui est en faveur de oui?
Moi, je considère ces votes comme un robinet qui est resté longtemps fermé. Vous savez, lorsque vous fermez un robinet une vingtaine d'années et que vous le rouvrez, en général, vous n'avez pas de l'eau pure immédiatement. C'est de l'eau boueuse, c'est le cas. Mais c'est bon parce que là, on a repris un peu avec des habitudes démocratiques, aller voter, ce qui nous manquait quand même. Alors, toutefois, je signale que nous ne sommes qu'à 30%. Au moins hier, nous étions encore à 30% du dépouillement. Mais entendre parler les avis des gens, on a semblé être déjà au courant du résultat final qui serait le oui. C'est qui est, le point de vue, ou au moins des tenants du oui, on croit savoir qu'ils savent que le résultat final, c'est le oui. Moi, je me dis, ça m'a fait penser aux prochaines échéances. C'est-à-dire que si les résultats sont aussi prévisibles, il y a un danger. Peut-être que demain, aujourd'hui, nous avons une coalition autour du oui, une coalition hétéroclite autour du oui, mais demain, cette coalition ne marchera peut-être plus. À ce moment-là, je crois qu'il y aura beaucoup de gens qui seront frustrés lorsque les résultats des urnes ne seront pas ceux qu'ils vont attendre. Et donc, il faut quand même laisser les urnes parler progressivement et ne pas avoir des avis tranchés, particulièrement un triomphalisme quelque peu malsain, compte tenu de l'environnement politique jeune qui est le nôtre.
Spéciale tribune de presse sur le référendum constitutionnel en coup de projecteur sur le résultat partiel publié par la CEI. Nous recevons dans ce studio John Gomboa qui vient de parler, journaliste Antenne A, Mike Mukebai, directeur de publication de Africa News, Jean-Jacques Louboya, éditeur du journal La Vérité, et Bélard Mboui depuis Goma, et rédacteur en chef de Soft International. On va, chacun en tout cas a donné déjà son point de vue. On a vu Mike Mukebai poser le problème en termes de l'implication de la communauté internationale qui a déterminé pratiquement ces résultats et a influencé le genre dans un sens. Comment partagez-vous ce point de vue de Mike Mukebai? Et on commence par Bélard Mboui. Pensez-vous que c'est en fait l'implication de la communauté internationale qui a déterminé ces résultats?
bon, il n'y a pas que l'implication de la communauté internationale, mais il est vrai que cette implication a joué un très grand rôle. Vous savez, c'était même scandaleux de constater que des partenaires extérieurs se permettent même de faire des menaces et de nous dire, si vous votez non, eh bien c'est le chaos. Vous n'avez qu'à voter oui. Ça ne peut pas se faire. Moi, je pense que ça a blessé l'amour propre de beaucoup de Congolais. J'ai la nette impression, moi, et c'est là peut-être que je rejoins aussi Mike en ce qui concerne la suite des événements, que cette communauté internationale, en ce qui concerne les pays africains, a une devise, c'est-à-dire il vaut mieux de mauvaises élections plutôt que d'élections du tout. Donc, tout est réglé à l'avance. On croit savoir déjà, voilà, on va organiser ces élections dont la finalité est de porter tel ou tel autre pouvoir. Après, il y aura des manifestations qu'on va réprimer et l'affaire continue. Ça a été le cas au Togo, ça a été le cas en Guinée, ça a été le cas au Tchad et partout ailleurs. Nous semblons être partis pour un tel scénario.
Oui, mais...
Si on n'arrive pas à requalifier le processus en cours, et bien nous sommes partis pour cela.
Oui,
et ça va laisser des frustrations qui nous ramèneront encore d'autres guerres 3, 4, 5, 10 ans plus tard. Et c'est ça vraiment le danger.
Voilà, on va retrouver Jean-Jacques Lubuya pour se prononcer aussi par rapport à cet avis de Mike Mukeba. Pensez-vous que c'est l'implication de la communauté internationale qui a déterminé le résultat du référendum?
Vous savez, mon cher confrère, en Afrique, les chefs d'État sont de simples gérants des intérêts occidentaux. Nous sommes dans un État qui se fait démocratique et je m'implique dans le point de vue du premier intervenant qui disait qu'il y a des frustrations et qu'on pourra un jour être rattrapé par l'histoire. Nous sommes dans un État qui se fait démocratique. À la veille du référendum, on a arrêté ceux qui prônaient le non dans le rue de Kinshasa. C'est bien triste. Le pasteur Théodore Ngoï est aux arrêts parce qu'il a voulu manifester son ras-le-bol face au projet de constitution. Il est en train de lumer le frais quelque part dans un cachot de Kinshasa. Avec des pareils d'azur, on est en train de rabaisser notre démocratie à un niveau terre à terre. Et s'il s'agissait des élections proprement dites, je suis de ceux qui pensent qu'on allait raser le pasteur Ngoï et pourquoi pas même faire une croix sur lui. Le CIAT, le comité international d'accompagnement de la transition, qui a poussé les Congolais à voter oui, doit aussi se préoccuper de ceux qui ont médité dans les camps du non-radical. À mon sens, il est inconcevable d'avancer sur le chemin de la démocratie avec des gens qui croupissent dans les géoles parce qu'ils ont émis un avis contraire. Quand les Français ont dit non à la Constitution européenne, personne n'a été arrêté pour avoir émis des opinions contraires. Inspirons-nous de ceux qui ouvrent la véritable démocratie, de ceux qui l'ont créée pour écrire une nouvelle page de l'histoire congolaise.
Vous avez entendu aussi l'avis de John Gomba qui pense qu'il faudrait tenir compte de la symbolique de référendum. La symbolique, c'est que c'est un robinet qui vient d'être ouvert, un robinet qui a été fermé il y a 40 ans. C'est un processus démocratique qui est de nouveau lancé. Est-ce que, du point de vue symbolique,
et d'après nos analyses ici à Lubumbashi, les gens ont voté parce qu'ils en ont marre des transitions qui n'en finissent pas. Pour les analphabètes, et même pour une frange importante des intellects, il fallait voter pour sortir du bout des tunnels et en finir avec une misère noire qui s'est amplifiée depuis la rupture brutale de la coopération entre les Zaïre et les bailleurs de fonds traditionnels. Le référendum est passé, on s'approche des enjeux électoraux, et croyez-moi, les votants sont malins, ceux qui sont éligibles le sont aussi dans ce pays. Faut-il attendre l'approche des élections pour faire des promesses fallacieuses aux électeurs, sous couvert d'une communauté internationale qui est là pour une soukate?
Mike Mukeba, je donne la parole maintenant à Mike Mukeba. Restez avec nous, Jean-Jacques Lubuya. Vous venez d'entendre aussi l'analyse de John Gomba qui, lui, pense qu'il faudrait voir le référendum en tant que symbole. Et en tant que symbole, il a bien établi le rapport avec le robinet qui a été fermé et qu'on ouvre après plusieurs temps et il ne faut pas s'attendre à de la pureté, d'abord il faut s'attendre à de l'impureté. Alors est-ce que vous acceptez cette symbolique-là et considérez le référendum comme une rupture dans un sens positif?
Je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure que j'ai trouvé que c'était tout de même positif d'avoir organisé ce référendum, surtout qu'aujourd'hui c'est un acquis, il n'est plus question de le remettre en cause. Mais quand John dit que c'est comme un robinet qui est resté fermé pendant 20 ans, qu'on l'ouvre, on ne peut pas s'attendre à avoir de l'eau pure tout de suite, j'ai dit oui et non. Oui, parce que c'est l'aérien, mais parce qu'en même temps, il y avait moyen de commencer à nettoyer les tuyaux plus loin avant d'ouvrir le robinet. Ça voudrait dire, je me refuse de partager l'idée selon laquelle, parce qu'on a passé 40 ans sans organiser des élections, on ne pouvait qu'avoir des mauvaises élections. Ça voudrait dire qu'on trouve des excuses pour justifier des fautes qui ont été commises délibérément. Ça veut dire, là où on pouvait bien faire, on ne le fait pas, on trouve une excuse, on dit, c'est parce que c'est la première fois depuis 40 ans qu'on le fait. Alors, là, il y a un danger.
Je reprécise ma question par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que ces élections référendaires sont-elles mauvaises ou sont-elles imparfaites?
Non, moi, je n'aimerais pas répondre de cette façon-là à cette question. Parce que tout à l'heure, je vous ai donné mon avis. J'ai dit, je refuse de me prononcer sur la crédibilité de ce référendum. Mais j'ai évoqué les éléments qui montrent que déjà au départ, ce référendum a été piégé. Ça n'a pas été le référendum du peuple congolais. On n'a pas fait participer les Congolais à ce référendum. Ils n'ont même pas été informés. Mais puisque nous avons déjà ce référendum et que plus de 50% des Congolais ont dit oui, il faut respecter cette majorité. La respecter, mais tirer les conséquences des fautes qui ont été commises, tirer les conséquences, réfléchir sur le fondement. C'est comme ça que tout à l'heure, je vous disais que je voulais vous donner un exemple. J'ai vu le président des États-Unis gagner l'élection présidentielle, George Bush, mais lançait un discours, un message fort à ceux qui ne l'avaient pas voté. Et à forcerie, ici, il s'agit du référendum. Il ne s'agit même pas d'un individu, il s'agit des textes qui vont nous régir pendant plusieurs années, pendant des dizaines, des centaines d'années. Si nous pensons que nous avons le oui et que ceux qui ont voté non ne valent rien dans cette république, nous aurons fait erreur.
Mais là, c'est une question à se poser après le résultat final, mais on en est encore au niveau de résultat partiel. Bon, donc s'il faudrait commenter le résultat partiel, est-ce qu'il faudrait considérer que les élections référendaires telles que organisées étaient mauvaises pour la RDC en ce moment ou c'était
sur le plan de projection, la nette différence qu'il y a entre le oui et le non nous laisse croire que le oui va l'emporter. Si déjà 33% des bureaux dépouillés, on arrive à une différence de quelques 40 ou 50% entre le oui et le non, c'est clair que le oui va l'emporter. Alors quand je réfléchis dans cette éventualité qui est très probable, la victoire du oui. Mais je me dis, il y a des problèmes qui se posent. Nous avons organisé ce référendum pour régler une crise de légitimité des institutions. Avons-nous réussi à régler cette crise? Si nous ne l'avons pas réglée, quelles ouvertures nous pouvons faire pour le reste du processus, pour pouvoir arriver à intégrer encore davantage des Congolais dans le processus? C'est très fondamental. Parce que je me dis, nous allons discuter sur la crédibilité de ce référendum. Vous savez que personne n'a le pouvoir de le remettre en cause, d'autant que Washington l'a déjà appuyé, d'autant que Paris, c'est comme ça que ça se passe avec les Africains. Quand ils organisent leurs élections, le lendemain matin, ils se réveillent, ils attendent que Washington et Paris donnent leurs avis. Et vous savez que pour notre cas, Washington et Paris ont déjà donné leurs avis. Donc c'est acquis. Mais nous sommes Congolais et notre destin nous appartient. Continuons à réfléchir. Ne nous laissons pas aller au triomphalisme en disant « le oui l'a emporté et c'est fini, nous allons jusqu'aux prochaines élections ». C'est très dangereux.
John Gomboa, vous venez d'entendre les arguments des uns et des autres en rapport avec l'organisation de ce référendum. Que pensez-vous? Est-ce qu'il faudrait maintenant l'après-référendum, c'est-à-dire concilier le peuple par rapport à lui-même, qu'il n'y ait pas une cassure, qu'il n'y ait pas un clivage entre la population congolaise à cause d'un vote oui ou non?
Oui, c'est très important, parce que il ne faudrait pas que les élections viennent en rajouter déjà sur les différences les divergences politiques enregistrées dans ces pays-ci, des divergences qui vont jusqu'aux extrémités du genre prendre des armes, s'affronter, quoi. Donc il faut que les résultats des élections soient acceptés par tous. Et pour cela, il faut qu'en amont, que les élections soient organisées correctement en toute transparence. Ces référendums ici, il y a eu beaucoup à redire dans l'organisation. Je dois avouer ma foi. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vagues parce que, je l'ai dit tantôt, il y a eu une sorte de coalition factuelle hétéroclite des intérêts politiques autour du oui. Mais les mêmes intérêts ne vont pas se retrouver demain lorsqu'il faudra choisir tel autre candidat. En ce moment-là, si les élections sont organisées dans le même cafouillage que actuellement, ça sera très grave parce que ceux qui gardent par devers eux des armes préféreront à ce moment-là le faire parler plutôt que laisser la voix aux urnes. Voilà pourquoi il est important à ce que nous prenions sur nous pour organiser des élections de façon plus sérieuse que ce qui a été fait pour le cas du référendum constitutionnel.
Alors, je peux donner un exemple. Juste un exemple, c'est juste une minute. Je prends un exemple. J'ai suivi Radio Okapi qui a dit, par exemple, qu'à Kayemba, à la frontière avec l'Angola, il y a eu 47 villages qui n'ont même pas été enrôlés. Et vous pensez, voyez-vous, aujourd'hui, personne n'en a fait cas parce que les belligérants sont tous d'accord, il faut que le oui passe. Si c'était l'élection présidentielle, voyez-vous les candidats qui pensent que ces voix devaient venir des Kayemba accepter le résultat final? C'est la question qu'il faut se poser maintenant. Il y a beaucoup de failles que nous sommes en train de minimiser maintenant qui vont nous rattraper en ce moment-là.
Ouais. Mais est-ce que, j'étais avec John Gombo, est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer que les résultats tels que donnés ou tels que va donner la CEI, c'est un résultat qui reflète juste vraiment la volonté du peuple et un résultat à prendre acte et sur lequel commencer à bâtir.
Vous savez, lorsque les urnes se prononcent, en général, lorsque nous sommes démocrates, on n'a qu'à s'incliner, même s'il y a beaucoup de choses à dire en amont de l'organisation. Je crois que c'est un pis-aller, les résultats de ces référendums, parce que j'ai dit tout à l'heure, à 32 ou 33%, on est déjà sûr du reste. Vous avez semblé en douter un peu, mais je venais de faire un reportage aujourd'hui avec Louis Michel, le commissaire européen, qui est venu féliciter les officiels congolais pour la réussite du référendum. C'est tout vous dire, c'est dire que tout est déjà bien programmé. Ces résultats, ça sera un oui. Bon, mais c'est un départ, un pis-aller sur lequel nous pouvons essayer de recadrer, de rectifier les tirs pour que les prochaines échéances qui mettront alors les individus et les partis politiques en concurrence puissent être organisées de façon plus sérieuse et plus transparente.
Ouais, mais est-ce que si on peut prendre acte de ces résultats, si bien que vous le considérez de pis-aller, on peut faire foi au travail de la CEI, à sa crédibilité aussi, est-ce que le résultat de référendum pourrait être aussi une réponse à cette crise de légitimité depuis 40 ans, selon vous?
Bon, moi je pense que ce serait quand même trop hâtif de le dire aujourd'hui, parce que rien qu'à entendre par exemple les discours de tenants de oui, c'est un discours différent. Il y a ceux qui disent qu'il faut voter oui pour mettre un terme à 1 plus 4. Ceux qui disent qu'il faut voter oui pour ceci ou pour cela. Et donc, finalement, quand les gens ont voté le oui, j'ai comme l'impression que c'est une sorte de ras-le-bol. Les gens sont fatigués. Ils ont dit qu'on mette un terme à cela. Alors, la crise des légitimités, à mon avis, sera résolue sérieusement et profondément lorsqu'on va commencer par élire les représentants au niveau de communes, les députés, les sénateurs et le président de la République. Lorsque ces personnalités, ces acteurs de l'espace politique national seront réellement élus des urnes, en ce moment-là, on peut croire que la crise de légitimité sera déjà à 50% résolue, parce qu'il faudra encore savoir les élus, qu'est-ce qu'ils feront de l'électorat par la suite.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par téléphone, composez-le 081 89 066-78.
Massi de Kisangani, province orientale, on va donner maintenant les opinions de nos auditeurs, que ceux qui ont appelé au non et au boycott du référendum reconnaissent humblement leur échec. Justin de Béni au Nord Kivu, certains partisans de boycott ont voulu vendre le pays à une certaine époque. Aujourd'hui, ils accusent la constitution de tenter de le faire. Nchiri, son opinion, que ceux qui parlent de fraude le prouvent par de faits concrets. Sinon, c'est l'intégrisme que les opposants professionnels veulent introduire en RDC. Amici de Kindu, Manima, le journaliste doit faire attention aux déclarations de politiciens qui crient à la fraude. Kinshasa et les Kassai seuls ne constituent pas la RDC. Jonas de Butembo, Nord Kivu, pourquoi les partis politiques nous ont exigé de voter oui alors que c'est la démocratie? Yves de Lubumbashi au Katanga, qu'est-ce qui explique que le non et les abstentions sont majoritaires au Bandundu, à Kinshasa, à Matadi, à Kananga et à Lubumbashi? Cela donne-t-il une crédibilité à ces élections où le oui l'emporte? Daniel Mukanga, pouvez-vous nous donner les résultats chiffrés par province? On a fait une spéciale dialogue entre Congolais hier, on est passé pratiquement en revue dans toutes les provinces, les grandes provinces, et on avait vu au niveau de province les résultats partiels donnés par la CEI dans les différentes provinces. Bernard de Kinshasa, pourquoi l'abbé Malumalu a-t-il interdit au président de bureau d'afficher les résultats du scrutin après le déploiement? Cette question aussi, on l'avait posée à monsieur l'abbé Malumalu, qui dit avoir donné des instructions claires d'afficher les résultats après les dépouillements. Et nous osons croire que c'est le président de chaque bureau de vote devrait suivre en principe cette instruction pour afficher immédiatement les résultats. Ce sont là les opinions des auditeurs que je viens de lire. Vous pouvez vous faire justement l'idée de ce que pensent les Congolais, pour la plupart, du moins ceux qui ont participé à cette émission, de comment eux ils considèrent le référendum. Alors on va retrouver Bélar Mbouy. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Soft International. Beaucoup de gens, et on vient de l'entendre, se sont exprimés réellement par ce référendum. Est-ce que, selon vous, pensez-vous qu'il faudrait maintenant considérer les résultats à l'issue de cette première opération comme une base à partir de laquelle juger maintenant les discours politiques et les agissements politiques?
Oui, je l'ai dit tantôt d'ailleurs, il reste vrai que les résultats du référendum est un acquis aujourd'hui. Bon, pour la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il commencer à pavoiser? Moi, je ne le pense pas. Il faut vraiment penser comment requalifier les processus de sorte que la suite ne replonge plus jamais dans la crise. Il y a quelqu'un qui vient d'intervenir pour dire que les journalistes ne doivent pas avoir les propos des politiciens. Non, le problème n'est pas d'avoir les propos des politiciens ou non. Le problème, c'est plutôt de pouvoir mettre en place des structures telles que demain, nous ne replongeons plus dans la guerre. Car aujourd'hui, si après ce référendum, il n'y a pas une agitation, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas un vrai enjeu politique, il n'y avait pas des adversaires qui s'affrontaient comme tels pour avoir un poste ou un autre sur l'échiquier politique national. Vous comprenez? Alors, si demain, regardez comment le référendum a été organisé. On finit l'enrôlement dans le Bandundu presque la veille et le lendemain, il y a déjà le référendum. Donc, on n'a même pas eu le temps de toiletter les listes électorales. Ce n'est pas juste. Moi, je suis allé voter. Moi, j'ai voté. Mais quand je suis allé voter, je constatais que l'encre qu'on a utilisée n'était pas indélébile. Pourquoi on n'a pas utilisé l'encre indélébile? Je vote à 9h, je retourne à la maison me laver. Toute l'encre est partie, il n'y avait plus rien sur le doigt. Donc, ce n'est pas de choses qu'il faut laisser passer à la légère. Donc, il y a plein de choses. Regardez les gens qui défendaient le nom. À Kinshasa, par exemple. Il ne faut pas que celui qui est loin qui dise non, Kinshasa, c'est pas la République. Non, demain, quand le qui voit des problèmes, les gens de Kinshasa font des manifestations pour solidariser. Et quand les gens de Kinshasa ont des problèmes, ceux qui sont à qui vous boutez vos consorts disent non, c'est pas la République. Non. Les gens du non faisaient une marche. Je crois que c'était le vendredi. On est allé les matraquer. Ça, ça doit inquiéter tous les Congolais.
Ouais,
Théodore Ngoï, qui est un des partisans du non à Kinshasa, il a défendu le nom, on l'a arrêté. Moi, personnellement, je ne suis pas très d'accord avec Théodore Ngoï sur certains aspects de son discours. Mais pour avoir défendu le nom, on doit l'arrêter, le mettre en prison. Et il y a des gens, ses propres compatriotes, qui sont à Butembo, je ne sais pas où, qui disent, écoutez, Kinshasa, c'est pas la République. Non, nous devons avoir la solidarité nationale. Nous devons vouloir mettre en marche des pratiques telles que demain, après les grands affrontements à venir, le pays ne replonge plus jamais dans la crise. Et ça, c'est important.
Bon, retrouvons Jean-Jacques Louboya. Je rappelle que Jean-Jacques Louboya est éditeur du journal La Vérité. Il intervient depuis Lubumbashi. Jean-Jacques, pensez-vous que le résultat du référendum sera aussi le résultat qui va donner la tendance de la volonté de peuple congolais et qui va trancher avec les discours politiciens qu'on a l'habitude d'attendre jusqu'ici?
Nous, il ne faut pas rêver, Franklin. Ce référendum est un cliché du Congo de demain. Je vous l'ai dit, et l'avenir très proche me donnera raison, tous les belligérants se retrouveront au pouvoir dans la Troisième République. En studio, on a parlé des tricheries. Les confrères de l'Est parlent du désordre dans l'organisation du vote, les retards dans la transmission des résultats et du manque criant d'infrastructures de base. Sous la Deuxième République, on a trop dansé au lieu de construire. On n'a pas de bonnes routes, les communications téléphoniques sont difficiles, très difficiles. Et à l'étape du référendum, nous avons tâtonné. Et avec les élections qui pointent à l'horizon, ça sera encore très difficile. Tout le monde en appelle à des élections libres, propres et transparentes. Chose difficile dans un pays où les urnes sont transportées sur des vélos ou à dodo avant qu'elles n'atteignent le bureau central. On doit craindre qu'une chose, la tricherie et la contestation.
Alors,
il ne faut pas être sorcier pour comprendre la donne politique. Il ne faut pas être sorcier pour comprendre la donne politique congolaise. Nous sommes en train d'apprendre l'ABCDR de la démocratie. Ce n'est qu'après une, voire deux décennies, qu'on parlera des élections crédibles dans ce pays.
Ouais, donc...
Les pays qui nous ont précédés sur cette voie sont parfois du surplace. Les contestations sont omniprésentes. Chaque fois qu'il y a un élu, on crie à la fraude. La communauté internationale qui est impliquée dans tous les coups accepte les verdicts et la vie continue, comme si de rien n'était.
Oui, Jean-Jacques...
On y va l'Afrique des indépendances et même celle du lendemain de la chute du mur de Berlin et du discours historique de François Mitterrand. Et qui va l'Afrique?
Jean-Jacques Louboya, donc vous voulez ici contester les résultats, quelques résultats que donnera la CEI à l'issue de cette opération référendaire, ou vous considérez que ce sont des résultats qui en même temps fait transparaître la volonté des Congolais, la volonté de Congolais qui est celle d'aller aux élections. Bilard Mbouillon, on te retrouve là sur la même question. Est-ce que les résultats de référendum, selon vous, pourraient constituer une base, une référence critique par rapport à laquelle juger les discours et les agissements politiques actuellement?
Je voudrais dire ceci, parce que tu me regardais, tu disais Bélard est à Goma.
Non, Mike
n'a pas réagi. Reste moi que Bélard n'a pas réagi. En fait, moi, je suis en train de ramener mon intervention plus sur le plan politique. Je vais répondre à ta question, mais je voudrais d'abord dire une chose.
Répondez-y et puis...
Je ne pense pas que ces résultats, les résultats du référendum, représentent une base à partir de laquelle nous pourrons bâtir le pays. Même si...
Non, mais juger du moins que tel suit le courant populaire ou est en contre-courant de la volonté.
Je ne comprends pas très bien la question.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire que les gens, par exemple, en participant massivement à l'opération de référendum, en votant pour le oui, et le oui l'emporte, est-ce qu'on peut par conséquent considérer comme une référence pour juger les discours politiques et les positionnements des politiciens et voir s'ils sont au courant ou en contre-courant des attentes du peuple?
Des attentes du peuple, je me dis à ce niveau, c'est vraiment très compliqué parce que le oui et le non ont été motivés par des raisons diverses. Je crois que sur d'autres enjeux, les gens vont se prononcer autrement. Il y a vraiment des enjeux qui vont arriver, les partis politiques vont devoir se déployer avec leurs projets de société, avec peut-être des programmes intermédiaires pour les 3-4 années à venir, au-delà des projets de société qui peuvent projeter sur le plan virtuel une belle société qui peut venir dans 50 ans, mais il faut imaginer des solutions adéquates sur le problème réel que les Congolais vivent au quotidien.
Ouais, mais est-ce que ne voyez-vous pas que justement aussi la victoire de oui et la participation massive est au fait aussi la victoire d'un discours qui était tourné sur les élections, de gens qui ont tenu les discours des élections allons-y Ce sont eux finalement qui ont remporté pratiquement.
Mais j'ai dit aujourd'hui, c'est ces discours, allons-y aux élections. Mais demain, lorsque tout le monde va se retrouver à ces élections, chacun apportera un discours. D'ailleurs, demain, ils vont se taper dessus, les belligérants. Parce que là, ils ont créé un clan. Ils ont créé un clan du oui, ils ont été tous d'accord. Mais demain, ça ne sera pas les discours, allons aux élections, chacun ira aux élections. Chacun présentera un discours. Chacun va chercher des moyens. Ils vont devoir se quereller déjà sur le problème des moyens. Parce qu'aujourd'hui, le camp du oui a utilisé le moyen de l'État. Ça n'a offusqué personne. Joseph Kabila est allé en campagne pour le oui avec les moyens de l'État qu'on n'a pas donné aux partisans du non. Mais quand demain, il va utiliser le moyen de l'État pour battre campagne pour l'élection présidentielle, je ne pense pas que ses adversaires vont l'accepter. Nous nous retrouverons dans une autre réalité.
Ouais, s'il faudrait maintenant faire des comparaisons, le discours des élections, le discours de « on a vendu le pays » et les discours de boycott. Est-ce qu'on ne voit pas là que parmi les trois discours, il y a au moins un qui en a apporté?
Vous savez, je vous dis ceci, hein. Le problème, c'est qu'ici, les discours qui sont véhiculés ne sont que des slogans, des stéréotypes. Il n'y a rien dedans, c'est creux. Il n'y a rien dedans. Parce que je vous dis, par exemple, les discours de ceux qui ont dit « allons aux élections ». Vous avez vu, il y a eu un débat technique mené par des experts, de grands professeurs comme Mampouya, un avocat que j'ai lu ce matin, Moukadi Boni, avocat à la Cour suprême de justice. Ça, c'est un débat technique où il démontre les failles dans cette constitution. Les failles sur le plan légistique, sur le plan de la grammaire. Personne n'a même prêté attention à cette critique-là. Pourtant, ça, c'est des critiques techniques, scientifiques, qui n'appellent pas un débat politique, qui ne demandent pas aux hommes politiques de s'engager là-dedans. Ça voudrait dire que des experts viennent vous dire qu'écoutez, monsieur, là où vous avez placé le micro, c'est pas le bon endroit. Vous appelez un autre expert, il étudie la même question, vous dit déplacer le micro et vous vous entêtez parce que vous êtes politique. C'est pas ça. Vous voyez qu'en réalité, ces discours sont creux. Parce qu'on a refusé même la rationalité. Mais je voulais dire une chose avant de terminer. Répondre globalement aux préoccupations des compatriotes qui ont réagi. Parce que pour respect pour eux,
juste une minute.
Ce que j'aimerais dire aux compatriotes, pour qui j'ai beaucoup de respect, ceux qui ont voté oui, comme ceux qui ont voté non, c'est ceci, qu'ils prennent l'exemple de Nelson Mandela, qui avait gagné des élections en Afrique du Sud, mais qui a continué à négocier avec son opposition, qui a continué à négocier avec Boutelesi, pour l'intérêt supérieur de l'Afrique du Sud, parce qu'il fallait à tout prix créer la paix. Mais en même temps, je regrette beaucoup parce que je ne vois pas un Mandela à la tête du Congo.
Oui, John Ngomboa, vous êtes journaliste à Antenne A. Pensez-vous qu'une victoire de oui, c'est aussi une victoire d'un discours? Discours qui a tourné sur les élections et qui, au fait, se révèle aujourd'hui être la volonté des gens?
Non, parce qu'il n'y a pas eu un discours cohérent autour du non. Comme nous l'avions relevé ici, les raisons pour faire passer les oui étaient diverses et même parfois contradictoires. Et donc, il n'y a pas eu un discours. Si les oui est passé aujourd'hui, à mon avis, c'est peut-être parce qu'on a brandi des fantômes ou peut-être parce que les gens en avaient ras-le-bol, comme on dit. Ils étaient fatigués. Et donc, ce vote n'est pas une sanction contre ceux qui ont prenez le nom, à mon avis. Ça ne devrait même pas l'être, ni ceux qui ont soutenu l'abstention.
Rapidement, je retrouve Bilard Mbouy pour la même question. Bilard, croyez-vous, et rapidement, que c'est aussi une victoire d'un discours? Discours qui a tourné sur les élections.
Pas du tout, Franklin. La seule leçon que moi je peux tirer sur ce point, c'est que ceux qui ont voté pour le non, il est clair qu'ils sont opposés au gouvernement. Ils ont dit non au gouvernement. Par contre, ceux qui ont voté pour le oui, il y en a qui sont pour le gouvernement dedans, mais il y en a aussi qui ont voté oui parce qu'ils en ont justement marre du gouvernement et qu'ils veulent l'avènement des vraies élections pour le faire partir.
Merci beaucoup, Bélard Mbouy. On retrouve Jean-Jacques Lougoya. Est-ce que c'est aussi un discours, c'est aussi une victoire d'un discours politique ou pas? Rapidement, c'est la fin de l'émission.
C'est une victoire. Ceux qui ont voté oui ont suivi un discours qui leur était favorable. Et au Congo, il ne faut pas trop réfléchir sur l'équation électorale. Le référendum est passé, on s'approche des enjeux électoraux, et croyez-moi, les votants sont aussi malins que ceux qui sont éligibles. Et la suite nous dira. la petite histoire.
Merci, c'est la fin de cette spéciale tribune de presse sur le référendum constitutionnel qu'a reçu le journaliste pour analyser les résultats partiels de la CEI. On se retrouve demain. Au revoir.